à intention numérique.
Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial en direct de la COPS. Alors, je suis aujourd'hui avec l'équipe de Balado Pédago, sous le nom, avec mon équipe d'intention numérique, donc c'est Mira Auvergnat. Mes collègues sont dans différents ateliers, alors j'en profite pour inviter mes amis qui passent à la COPS, mais plus que des amis, en fait, des personnes extrêmement crinqués, on va le dire comme ça. C'est des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et qui redéfinit finalement notre capacité à aller plus loin pour les élèves qui en ont vraiment besoin. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué chez cette personne-là. Donc, je suis très contente d'avoir avec moi Caroline Gagné.
Allô, Mira. Je suis vraiment contente d'être là
T'es
aussi.
T'es un peu excitée d'enregistrer un balado aussi.
C'est la première fois.
Je suis vraiment contente que tu sois passée me voir parce que je pense que c'est un aspect qu'on exploite moins dans le balado, de pouvoir avoir l'angle de vue d'une orthopédagogue. Comment tu utilises le numérique dans ton approche, en fait. Là, pas seulement avec les enfants, mais pour toi aussi, personnellement. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? T'en es où? Qu'est-ce que tu fais?
Avec
t'es
plaisir,
qui? Oui, etc.
Caroline Gagné. Alors, je suis parcours professionnel assez diversifié. J'ai commencé là, à travailler à Bermance, en fait, l'école à laquelle le Mira
c'est
travaille
chez nous,
actuellement.
Ça. Ouais.
J'ai travaillé là une dizaine d'années comme orthopédagogue. C'est vraiment l'école qui m'a donné ma première chance et j'ai adoré cette expérience. Ensuite, j'ai décidé de quitter pour aller à l'université. Une petite section de temps, j'ai travaillé dans une université pour voir un peu les besoins qui étaient là. Et je me suis beaucoup trop ennuyée des élèves du primaire. Donc, j'ai décidé de retourner...
On les aime-tu, hein? C'est dur de tricher de ça.
Une autre école primaire qui s'appelle l'Institut Saint-Joseph, dans laquelle je travaille actuellement là, comme orthopédagogue au troisième cycle.
Wow! Des beaux changements de carrière. Fait que tu t'ennuyais des élèves du primaire?
Je m'ennuyais des élèves du primaire. Finalement, je faisais pas tant de l'orthopédagogie en intervention. J'étais plus dans une équipe d'intervenants au niveau des agents de recherche, donc des tâches beaucoup plus administratives. Puis j'ai dit, ce n'est pas pour moi le télétravail.
On voulait quelque chose de plus concret.
Beaucoup
dis-moi,
plus concret.
Dans ton métier d'orthopédagogue, est-ce que tu utilises le numérique? Comment tu l'utilises?
Définitivement. Je peux commencer avec la première sphère là, d'utilisation, c'est... Je trouvais que prendre des notes de suivi, c'était beaucoup trop long à la main. Papier, crayon, on a une tenue de dossier qu'on doit faire, puis j'en pouvais plus. Donc, j'ai décidé finalement d'utiliser mon Google Agenda. Là. Ça, c'est vraiment la base que j'ai pour bien m'organiser, voir chacun des suivis des élèves. Puis chaque élève en orthopédagogie a un dossier orthopédagogique dans mon Google Doc.
OK.
Que j'utilise que bien classé dans un Google Drive, bien sûr, c'est la suite des choses. Puis ce que je fais pour... parce qu'on sait qu'on a beaucoup, beaucoup d'élèves, soit en sous-groupe en classe, soit juste en sous-groupe, ou des interventions de cours enseignement en classe avec la modélisation qu'on fait avec l'enseignant. Mm-hmm. J'ai décidé finalement d'enregistrer principalement l'ensemble de mes notes et ça s'écrit automatiquement dans mon document. C'est pas parfait, il reste des petites coquilles, mais pour moi, l'essence est là puis je peux mettre même plus de contenu sur mes notes de suivi. Fait que pour moi, c'est vraiment une plus-value, cette technologie-là. Il y a aussi, ça c'est vraiment la portion, l'organisation, planification,
prise de notes.
Pour le suivi avec les parents aussi, je trouvais que écrire des courriels après chaque séance, j'arrivais pas parce qu'on a de plus en plus d'élèves avec des besoins particuliers. Donc, j'ai décidé de m'enregistrer. Fait que la première fois, je fais un petit enregistrement vidéo pour qu'ils me voient, pour qu'il y ait un premier contact facilitant. Par la suite, je fais des enregistrements audio. Là. Donc, tout de suite après ma séance.
Tu utilises quoi, hein? Juste question que...
J'utilise... QuickTime sur mon Mac.
Ouais. Ben juste easy, là,
de base.
Parfait. Des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que...
Pas vraiment plus loin. Déjà, sur PC, il y a l'équivalent aussi là, qu'on peut s'y retrouver. Mais tu sais, je suis vraiment allée aussi simplement que ça. Fait que ça, c'est vraiment pour mon organisation, ma planification quotidienne hebdomadaire qui a vraiment amélioré ma qualité de vie au travail parce que j'ai moins de notes suivies papier à prendre. Là. Fait que c'est plus facile.
Plus efficace aussi.
Oui, oui.
Excellent. Et là, au niveau des élèves,
oui.
Si on va dans la deuxième sphère, tu travailles uniquement avec des élèves qui éprouvent des difficultés. On sait que le numérique a beaucoup évolué dans les dernières années. Qu'est-ce qui, selon toi, a été game changer?
Oui.
On utilise des mots en anglais.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui a été vraiment. Ben, qu'est-ce qui est déjà sur le marché? On va commencer par ça parce qu'après ça, on va pouvoir rêver un petit peu plus. Qu'est-ce qui est déjà sur le marché là, que tu utilises avec tes élèves, que tu vois que ça fait une différence?
Bien. C'est sûr qu'il y a le Lexibar. Mon rêve, c'est qu'il y ait un Lexibar un peu plus mieux adapté, que ça soit peut-être une application plus conviviale, autant sur iPad que sur PC que sur Mac. Parce qu'en ce moment, rien n'est pour... Tu sais, Lexibar a vraiment une plus-value, mais ouais. On trouve qu'il n'est pas très fonctionnel. Il bug souvent.
Pas assez flexible.
Les images ne sont pas toujours adéquates en fonction du besoin des élèves. Je donne un exemple, comme mettons la cour de récréation. Là. Quand ils doivent choisir ce mot-là, ben, c'est un juge qui est à côté. Tu sais, pour moi... C'est pas très logique.
Pas le premier mot qui va. Oui, en effet.
Un de mes rêves, c'est qu'il y ait une application qui soit plus convenable pour les aider dans leur accompagnement d'écriture, qu'on optimise ça, mais Lexibar demeure un incontournable pour des élèves qui ont des grands troubles d'apprentissage, des dyslexies, dysorthographies phonologiques principalement, parce qu'on a vraiment la plus-value versus WordQ avec le Lexibar, d'avoir toutes les phonèmes. Donc, si j'écris PATO, P-A, T-O, ben, il va le trouver. Mais avec, ouais. avec WordQ, pas nécessairement.
Okay.
Fait qu'il y a une plus-value d'avoir le Lexibar. WordQ fonctionne bien aussi. C'est, je l'ai déjà utilisé dans le passé. Antidote, bien sûr, c'est un outil incontournable pour moi d'avoir un
avoir plus de place, Antidote, honnêtement.
Sauf que la problématique, je vais te le dire, Mira, par rapport à ça, je trouve que souvent, on dit tout le temps, on va attendre qu'il soit au secondaire pour utiliser l'Antidote. Mm. Alors que je pense qu'il y a certains élèves, surtout au niveau du champ lexical, par exemple, je pense à un élève qui a un trouble du langage, qui n'est pas capable de faire de lien dans sa tête. L'accès lexical est difficile. C'est vraiment problématique au niveau de l'écriture.
Toi, tu commencerais à faire un champ davantage fin primaire, peut-être plus?
Oui, mettons 5-6 ou dans des cas vraiment exceptionnels d'enfants qui sont en très, très grande difficulté, mais je le commencerais 5-6e année. Mais on a quand même trouvé une alternative à notre école. On utilise Usito, qui est un dictionnaire en ligne. C'est un dictionnaire qui a été créé par l'Université de Sherbrooke. Donc, il est en ligne. Vous pouvez l'utiliser sans problème. C'est fait pour les adultes aussi, là, mais pour des élèves de 5-6e année, ça fonctionne super bien. On a les tables de conjugaison. Puis c'est surtout le concept que c'est gratuit. Fait que dans les écoles, on n'a pas beaucoup d'argent. Ils peuvent l'avoir à la maison, accessible en tout temps. Ça prend pas leur propre ordinateur avec une application quelconque comme Antidote. Fait qu'ils sont n'importe où dans la vie, les élèves, ils peuvent chercher le sens des mots.
On aime ça.
Ce qui est vraiment important pour ceux qui ont beaucoup de difficultés à bien comprendre... le sens des mots.
Le lexical, comme tu as dit tout à l'heure.
Comme les troubles de langage, oui.
Autre chose, autre outil là, que tu dis, ou peut-être autre approche peut-être que tu as mis en place, que tu dis, ouais, pour des enfants en difficulté, ça,
oui,
c'est nécessaire.
Oui, l'application du code de correction à l'ordinateur. Donc, si vous avez un élève qui a un ordinateur avec sa mesure 30, 180 ou 110, là, ça dépend des écoles, je ne le sais plus trop, faites vraiment en sorte qu'il puisse utiliser un code de correction qui est applicable à l'ordinateur. Puis,
qui est appliqué dans toute l'école.
Qui est appliqué dans toute l'école,
aussi, parce
idéalement.
Parce que ça change année après année.
Exactement. Parce que j'ai beaucoup vu d'élèves qui imprimaient leurs feuilles puis qui faisaient des modifications à la main, mais c'est contre-productif pour un élève en difficulté. Là.
Non, il n'y a plus accès à son logiciel quand il fait ça.
Tout à fait. Puis j'ai été très inspirée ce matin de l'atelier de Laurie et de Amélie. Laurie Couture, Amélie Bélanger, je pense, de la FEP. J'ai trouvé que ça m'a donné des réflexions là, pour qu'est-ce que je vais appliquer dans mon école, mais c'est principalement qu'un code de correction, ça ne peut pas être le même pour tous. Il faut choisir en fonction des besoins de l'élève. Donc, si, par exemple, mon élève en quatrième année ne comprend pas les accords, c'est ça qui est le plus difficile. C'est le type d'erreur que je remarque le plus souvent dans ses copies. Ben, je vais lui proposer de faire la section accords. Peut-être qu'il n'a pas besoin de faire la majuscule point. Fait que c'est de jouer un peu avec un code de correction plus flexible. Puis, ce qui m'a inspirée aussi, c'est toute
décharger la... Décharger cognitivement l'enfant aussi. On sait que c'est déjà un enfant qui est en difficulté. Quand on a un code de correction aussi complet que ce qu'on demande à nos élèves...
Exactement.
Qui réussissent bien puis qui le font rapidement, pratiquement sans réfléchir.
Souvent, ces élèves-là en difficulté, la problématique, c'est que c'est sûr qu'ils ont des erreurs partout. C'est dans chacune, dans le pavot, là, moi, que j'utilise, là, il y a des erreurs dans chacune des étapes. Donc, il faut sélectionner. Puis je dirais que ce que j'ai remarqué chez les élèves, surtout dyslexiques, dysorthographiques, c'est... Par exemple, au niveau de la syntaxe de la phrase qui est vraiment problématique, puis ça prend beaucoup de temps de se corriger sur ça. Fait que de peut-être.
C'est pas la synthèse vocale qui va pas les aider non plus.
Vraiment pas, exact.
Oui. Donc, c'est trouver des bonnes stratégies pour les aider pour venir faire une étape à la fois. Dis-moi, Caro, as-tu. Parce que là, on a parlé du numérique qui existe déjà.
Oui.
Mais on se connaît un petit peu.
Oui.
On sait qu'on aime rêver.
Oui.
On a un petit alias licorne. Aimerais-tu voir apparaître sur le marché des applications, des outils qui pourraient encore plus soutenir les élèves en difficulté. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir apparaître? Parce que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. J'imagine que c'est quand même quelque chose qui...
Je pense que déjà, l'utilisation de ChatGPT pour les élèves en difficulté serait vraiment bénéfique au niveau, parce qu'on l'a sous nos mains. La problématique, c'est qu'il faut se faire un cadre. Il faut s'assurer que chaque école a un cadre d'utilisation de ChatGPT, selon moi. Puis au primaire, on est moins porté que le secondaire. Puis en tout cas, c'est dans mes réflexions. Là.
Ouais.
Mais là, ce matin, j'ai fait non. Ça fait quelques fois que je pense à ça. Puis je pense que pour justement élaborer des idées, trouver un vocabulaire, un champ lexical relié, par exemple, à tu dois écrire une histoire sur l'hiver. Bien, champ lexical en lien avec l'hiver. Trouvez-moi des mots plus riches, plus définitifs pour que ces élèves-là, qui doivent déjà faire énormément de travail, puis les outils qu'on a actuellement ne permettent pas de développer un vocabulaire très large. Oui, Antidote, ça aide, Lucito aussi, mais c'est beaucoup de temps chercher ça, puis de le faire, de le mettre en place, ce champ-là, puis de le mettre dans un document. Je me dis, si on avait ChatGPT pour accompagner les élèves en difficulté...
Quelque chose qui se ressemble, parce que là, pour l'instant, on a encore un âge, bon...
C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste de voir si pour avoir quelque chose comme ça qui pourrait accompagner mieux ces élèves-là, puis sans que ça soit considéré comme de la triche, là, parce que moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois plus comme un outil que nous, comme adultes, on utilise tranquillement pas vite, donc les enfants aussi vont finir par peut-être utiliser cet outil-là quotidiennement.
À bon escient, que ça les...
Pour
ça
les aider pour l'écriture, surtout, je pense que c'est là que ça va avoir une plus-value. Puis pour la lecture, ce que je rêverais, ça serait justement un logiciel qui permet, peut-être une application plus là, que je verrais, mais une application qui permettrait d'enregistrer un texte lu à l'oral avec des questions qui seront posées à l'élève pour décharger le fait de faire des entrevues de lecture en classe quotidiennement ou même au niveau de l'orthopédagogie quand on fait des entrevues de lecture orale, des évaluations. Ben, si on peut se décharger un petit peu à ce niveau-là puis analyser après les réponses, les résultats, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bien intéressant. J'ai d'autres idées aussi, mais tu sais, on rêve.
On
là,
va
c'est
s'en
ça.
Tenir à ça. Oui, exactement. Super. Écoute, c'est ta première fois à la COP, ça se peut-tu?
Oui, c'est ma première fois. J'ai entendu parler beaucoup par Mira, mais à notre école, c'est le technicien informatique de mon école qui m'a parlé, qui venait monter un kiosque de la coopérative chez Zone.
OK.
Donc, j'ai décidé de m'inscrire dernière minute parce qu'on doit faire des choix à notre école technopédagogique. Puis, je voulais être sûre que l'ensemble de l'équipe école puisse avoir les bonnes informations puis qu'on parte de ça pour vraiment... prendre la meilleure décision en fonction de nos besoins à l'école et les besoins des élèves.
Bien excellent. Ah, mais je te souhaite une très belle journée dans la continuation de tes ateliers, etc. Merci d'être passé nous voir, nous en jaser. C'est super intéressant. Vous allez pouvoir retrouver cet épisode sur notre balado d'intention pédago numérique. Et je vous dis à la prochaine.